On est rejoint par Peter Aménoch ce matin, qui est directeur général de l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Ça va bien ce matin?
Oui, ça va très bien.
Bon, ben, on est très heureux de vous entendre. Ça doit être quand même une grosse semaine, là. J'ai vu que vous aviez un parcours assez étendu dans les derniers jours.
Une grosse semaine, un gros 3 mois. On est en route à travers la province depuis le 8 avril. On est en train de rencontrer des communautés, une trentaine de communautés à travers la province.
Bon, ben, on vous souhaite que ça se déroule très bien. D'ailleurs, vous étiez à Kapuskasing hier soir, au 75 Queen, là, un bâtiment de l'université de Hearst. Est-ce que la rencontre s'est bien déroulée?
La rencontre s'est déroulée exceptionnellement. On avait une trentaine de personnes qui ont vraiment bien contribué au processus. Ça a été vraiment une des plus belles consultations qu'on a eues avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont issus de l'immigration, des gens qui sont ici depuis longtemps. Ça a été vraiment tout un échange.
Effectivement, ben en tout cas, on est très heureux de l'entendre. Les États généraux, cette année, sont centrés sur la puissance démographique des Franco-Ontariens, là, ou dites-moi là si je me trompe. Pouvez-vous expliquer les enjeux à nos auditeurs qui sont peut-être pas nécessairement familiers avec ce concept-là?
Mais la FAO sentait qu'on était un des moments charnières de notre communauté. On regardait les questions de poids démographique. Notre poids démographique baisse un peu à chaque recensement, bien qu'il n'y ait plus de Franco-Ontariens qu'on n'a jamais eu dans la province. Si le poids démographique baisse trop, ça va devenir très difficile d'avoir des gains politiques, avoir des services en français, ça va devenir encore plus difficile. Donc, on a décidé d'adresser la question. En gros, la population est vieillissante. On fait moins de bébés qu'avant et au cours des 25 prochaines années, il y a un déficit de naissance versus décès de 75 000 personnes. Donc, on mise beaucoup sur l'immigration pour aider à rebâtir le poids démographique. Et dans le milieu de tout ça, le gouvernement fédéral, dans sa dernière loi sur les langues officielles, s'est engagé à aider à rebâtir le poids démographique de nos communautés francophones au chiffre de 1971. À ce moment-là, on était 6,1% de la population. Aujourd'hui, on est environ à 4,6% ou 5%, dépendant de quel chiffre qu'on utilise. Mais 1% de plus de francophones en Ontario, ça ne serait pas une mauvaise chose.
Effectivement, c'est difficile de ne pas être d'accord avec vous. Est-ce que votre visite à Kapuskasing vous a peut-être inspiré de nouveaux points de vue, des nouvelles solutions concernant ce problème de poids démographique-là?
Bien, on est en train de, dans notre tournée, on met les gens sous groupe, sont en train de travailler ensemble. J'ai pas eu la chance de lire tous les échanges qui ont eu lieu, mais les discussions ont certainement été très intéressantes et les gens ont certainement apporté des idées. On a terminé la soirée un petit peu avec une discussion de groupe, mais on sent un engagement très fort dans la communauté de Kapuskasing, dans les environs, de vouloir maintenir. Une des belles choses qu'on a vues hier soir, c'était qu'il y avait beaucoup d'étudiants de l'Université de Hearst qui ont participé au processus. On a parlé d'immigration, comment ça peut nous aider à rebâtir le poids démographique. Mais comment nos communautés ont besoin d'être encore plus accueillantes, qu'on a besoin d'aider dans l'intégration des gens. Tout le monde se sent franco-ontarien dans ce processus-là.
Effectivement, puis ça se déroule très bien sur ma prochaine question. Depuis les derniers mois, là, et même maintenant, vous me parlez beaucoup d'intégration des nouveaux franco-ontariens là, qui sont arrivés au pays, dans la province, dans les dernières années, auprès des communautés qui sont déjà établies, dont la communauté du Corridor de la 11, là où on est présentement. Avez-vous des exemples concrets à donner aux auditeurs là, de processus d'intégration réussi de nouveaux franco-ontariens dans nos communautés existantes?
Oui, il faut vraiment dire que l'Université de Hearst est un des piliers de l'immigration dans votre région. La capacité de l'université d'aller à l'international, chercher des étudiants, d'aider à les intégrer. Je suis à Hearst, à Cap, depuis vendredi dernier. J'ai visité la région avec notre président Fabien Barre, qui est à Hearst, et j'ai été étonné du nombre de jeunes personnes issues de l'immigration qui semblent bien s'intégrer dans la communauté, bien qu'il y a toujours des défis. Mais on voit vraiment des gens un peu partout dans votre communauté. C'était impensable il y a 30 ans.
Effectivement, là, l'immigration a vraiment une importance dans la communauté de Kapuskasing. Puis je suis très heureux que vous l'ayez remarqué. C'est sûr que tenir l'événement à l'Université de Hearst, qui est un pilier comme ça pour l'intégration, ça a dû beaucoup aider. La région du corridor de la route 11 a un poids démographique important quand même là en Ontario. Si je ne m'abuse, si on inclut surtout la ville de Hearst, là, on est l'une des régions où les francophones ont le plus de poids démographique dans toute la province. Est-ce que ça peut être un outil, ça, pour bien intégrer les nouveaux arrivants francophones?
Bien, ce que les immigrants sont en train de nous dire un peu partout en province dans cette consultation, c'est que c'est difficile des fois de trouver des emplois à l'arrivée, surtout si notre anglais est limité. Et souvent, on pense ou on a l'impression que c'est plus difficile de trouver un emploi si on n'a pas un peu d'anglais. Donc, pendant que c'est des régions comme les vôtres où il y a une forte concentration de francophones, ça donne plus de chances pour trouver des emplois, s'intégrer doucement dans la communauté et de pouvoir bâtir une vie. Vous avez des avantages sur d'autres régions comme le sud de l'Ontario où la masse anglophone est tellement importante que c'est presque difficile de vivre en français dans certaines régions. Donc absolument, puis tu viens dans les commerces dans la région et on tes services en français, c'est assez facile à obtenir.
Oui, c'est même une blague par notre coin, là, où, eh bien, on est peut-être l'un des seuls endroits en Ontario, le Hearst, Kapuskasing, Cochrane, où c'est attendu de se faire servir en français, là, dans les endroits comme Tim Hortons, etc. Est-ce que vous jugez qu'on est rendu à un point où on doit sauver le français et son essor en Ontario, ou on est plutôt dans une situation où on doit le stabiliser, le faire continuer de grandir, mais on n'est pas dans une situation de sauvetage encore?
Mais on n'est pas loin de la situation de sauvetage. On voit nos aînés qui parlent français, des fois les parents parlent moins français, les jeunes parlent de moins en moins français, particulièrement ceux qui sont ici depuis leur naissance. On voit des défis, on les voit à travers la province, on voit des taux d'assimilation qui restent quand même assez hauts, et de plus en plus, alors que les francophones, le taux de mariage franco-franco baisse, on voit que quand il y a des mariages mixtes ou des mariages exogames, on voit que la transmission de la langue se fait plus difficilement. En gros, si les deux parents sont francophones, le taux de transmission de la langue est presque 100%. Si maman est francophone, c'est 75 à 80%. Et si papa est francophone et maman est anglophone, le taux de transmission de la langue peut être 30% ou moins, dépendant de la région. Donc, c'est des statistiques qui peuvent être alarmantes. Et il faut mettre des efforts pour s'assurer qu'on continue à assurer une bonne transmission de la langue à nos enfants et, afin d'assurer une continuité. Ça serait une perte énorme de perdre la capacité d'une deuxième langue ou de notre langue maternelle dans nos familles.
Effectivement, là. Et puis vous, Monsieur Homenoc, qui est très outillé sur le sujet, pour les amoureux du français, là, comme moi, comme plusieurs de nos auditeurs qui nous écoutent présentement, est-ce que vous avez des cordes à mettre à notre arc, des outils à mettre dans notre boîte à outils pour essayer de gagner la conversation qu'on a malheureusement souvent avec des jeunes ou avec des gens qui s'intègrent en français et les convaincre, parce que c'est un peu ça malheureusement, on doit les convaincre d'apprendre le français, de vivre en français, de garder cette langue-là dans leur vie. Est-ce que vous avez des petites astuces pour nous?
Bien, j'en ai quelques-unes. La première, je vais dire qu'économiquement, les statistiques démontrent que si tu es francophone bilingue, ta capacité d'avoir un emploi et de travailler est plus haut et que au cours de la vie, tu peux faire 12 à 14 000 $ de plus par année si tu as cette capacité bilingue. Sur une trentaine d'années de travail, c'est des sommes considérables. La deuxième chose, ça donne des avantages linguistiques. Si c'est parti de ta langue est partie de ta culture francophone en Ontario, d'avoir cette deuxième langue aussi apporte toute une richesse qu'il ne faut pas négliger. Et des fois, les gens ont un petit peu de gêne à parler français. On va entendre « mon français n'est pas assez bon, j'ai peur de montrer le mauvais français à mes enfants ». Il ne faut pas avoir peur. Ce que vous entendez, on n'entend jamais des Anglais qui disent « my English isn't good enough ». C'est vraiment, on parle la langue, on s'inquiète moins. Donc, il faut juste avoir pas de gêne, puis juste la parler. Et plus qu'on l'utilise, le plus qu'elle va s'améliorer et le plus qu'on va devenir aisé à avoir des discussions, des conversations en français. Pas un si gros problème dans votre région, mais ça commence à se passer dans d'autres.
Bon, malheureusement, mais j'aime ce que j'entends par contre. Pour finir, là, il y a plusieurs personnes qui veulent s'impliquer en français, qui ont cette culture franco-ontarienne-là à cœur. Pour s'impliquer justement, vos recommandations, ce serait de s'investir dans les organismes francophones locaux, d'en parler dans les cercles autour de leur vie. Est-ce que vous avez d'autres exemples?
Je pense que s'impliquer dans les organismes locaux, c'est vraiment la bonne façon d'y aller. De juste parler aux gens tous les jours, il y a plein d'occasions de s'impliquer bénévolement. Je veux aussi dire aux gens qui n'ont pas eu la chance de participer à l'exercice des États généraux hier soir que la FAO va tenir le 29 juin prochain une session en ligne de 17h à 20h. La chance de participer à une session très similaire à celle qu'on a eue en personne, mais en ligne, avec des gens à travers la province. Donc, c'est pas trop tard pour s'impliquer.
Puis on encourage tout le monde qui nous écoute présentement, d'ailleurs, à s'impliquer. Merci beaucoup d'être passé ce matin, M. Homenok. Puis bonne chance, bon voyage. Je pense que votre prochain arrêt, c'est Thunder Bay.
Notre prochain arrêt, c'est Hearst ce soir et Thunder Bay, c'est vendredi.
Ah, pardonnez-moi pour ça, mais merci beaucoup d'être passé ce matin à CKGM.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous, vos auditeurs.
C'était Nathan Gagné pour l'initiative de journalisme local à Kapuskasing.